Monsieur Samuel Longepierre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue à l'INRAP, docteur en archéologie, et vous allez éveiller certainement la curiosité, mais surtout l'intérêt, de nos auditeurs en parlant d'un bourg médiéval dans l'Usège, Massargues. Alors tout d'abord, est-ce que des recherches archéologiques ces dernières années ont permis de découvrir des villages médiévaux abandonnés, totalement inoccupés, dans d'autres endroits?
Bon, on se place durant le Moyen-Âge central. Donc Massargues, c'est un bourg des 12e-13e siècles. C'est vraiment l'époque où les villages s'agglomèrent, prennent la forme qu'ils ont plus ou moins actuellement. Il est vrai que jusque dans les années 90, pour le sud de la France, on avait juste quelques fouilles très localisées qui montraient des morceaux de maisons, de villages médiévaux abandonnés, mais très peu de documentation. Grâce aux fouilles préventives donc menées en extensif avant de grands projets immobiliers, tels les constructions d'autoroutes par exemple, que dans les années 2000-2005, l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, a fouillé de façon, on va dire, extensive deux villages sur la route entre Nîmes et Montpellier lors d'un agrandissement de l'autoroute. Et donc la villa de Missignac à Aimargues, villa qui veut dire village, hein, et le Mas de Roux à Castries, qu'on mettait par la fouille des villages fouillés quasiment en totalité, donc sur entre un demi et un hectare. Là où Massargues se distingue de ces deux villages, c'est que, à mon sens, Massargues, on n'est plus vraiment dans une occupation typiquement villageoise, on est plutôt dans un mode urbain. Par rapport à la taille et à d'autres éléments qu'on pourra évoquer, c'est donc un bourg qu'on voit encore partiellement dans les garrigues de Saint-Quentin-la-Poterie, près d'Uzès. Et les ruines dans la garrigue déterminent 3 hectares. Elles sont enclos par un mur de clôture. C'est un tissu d'habitat qui est très dense. Et 3 hectares, d'après mes documentations, on est typiquement dans un bourg. On n'est plus dans un village.
D'accord.
Quand j'ai cité Missignac, fouillé par Odile Moffra à Aimargues, là c'est un village, on est à 1 hectare. Et c'est déjà pour un village, ça commence déjà à être très important. Et c'est un tissu qui est relativement lâche. Alors qu'à Massargues, on a vraiment une concentration très serrée, type vraiment plan d'urbanisme.
Et comment on est arrivé jusque Massargues, justement, l'autoroute qui a permis de découvrir les autres villages médiévaux du Gard. Mais là, Massargues, comment peut-on, dans une garrigue aussi dense, parce qu'au-dessus de Valabry, où se trouve, donc, on est quand même, c'est très boisé.
Alors, ça a été une découverte relativement par hasard. C'est quand j'étais doctorant en archéologie, je faisais une thèse sur les meules et les moulins pour l'Antiquité romaine, et je travaillais sur les carrières de meules de Saint-Quentin-la-Poterie, que j'avais découvert ou redécouvert à l'époque, et qui sont des carrières de meules de la fin de l'Antiquité, parmi même les mieux conservées à l'échelle de la France. Et j'avais fait des prospections dans tout le secteur de Saint-Quentin-la-Poterie, sur des sites antiques qui étaient aussi des ateliers de taille de meules. Et à côté d'une de ces fermes qui taillait les meules, en prospectant un peu plus large, dans le bois, j'ai vu qu'il y avait des gros blocs qui sortaient à travers les broussailles, parce que là, c'est de la garrigue, hein, donc c'est vraiment de la garrigue impénétrable, il n'y a pas vraiment de sentier, c'est du chêne très dense, de la salse pareille. Dans ces broussailles, on voyait des blocs posés de champs, des très gros blocs, un peu partout, et ce qui me semblait correspondre à des monticules d'effondrement un peu partout sur 3 hectares. Et déjà en 2004, en thèse, j'avais demandé l'autorisation du ministère de la Culture pour faire un tout petit sondage de 4 mètres carrés pour vérifier l'hypothèse d'un village, que c'était bien des ruines. Et on a trouvé des céramiques des 12e, 13e siècle. Donc c'est parti de là, sinon le site était totalement tombé dans l'oubli. Ce qui est assez étonnant, parce qu'il faut quand même dire qu'au 12e, 13e siècle, dans la région, on va dire dans la région de Nîmes, Uzès, en Languedoc, il y a effectivement quelques villages qui ont disparu. Mais pour Uzès, par exemple, tous les villages cités dans les textes du 12e, 13e siècle sont encore occupés actuellement. Et pour un bourg de la taille de Massargues, qu'un bourg disparaisse subitement, j'ai pas trouvé d'autres exemples. Parce qu'en général, des bourgs de la taille de Massargues, ça devient de nos jours une petite ville. Par exemple, Massargues, c'est exactement la même taille pour le Moyen-Âge que la ville de Saint-Affrique, qui fait 3 hectares, même époque, 3e, 13e siècle. Et bien, tous ces bourgs médiévaux, en général, ils sont encore occupés. Massargues, c'est vraiment, en fait, le seul exemple de bourg archéologique médiéval dans tout le sud de la France qui a disparu sans être encore occupé de nos jours.
Et vous nous dites, quand vous parlez de Massargues, vous parlez de Marsanicis. Il y a eu une cité romaine avant, qu'en pensez-vous?
Alors effectivement, donc les textes citent Massargues comme la villa des Marsanicis. Les notables de Massargues sont nommés Pierre, Raymond de Marsanicis. C'est le tènement en fait, c'est le lieu-dit. Et effectivement, ça fait penser à un nom d'origine antique. Et à l'emplacement de Massargues se trouvait une ferme romaine, celle que j'évoquais tout à l'heure, où il y avait un atelier de taille de meule. Le nom du lieu vient certainement de cette antiquité. Après, on ne peut pas vraiment imaginer de continuité directe entre l'occupation antique et la formation du bourg, parce que dans le bourg, on est vraiment, on en reparlera tout à l'heure, on est vraiment dans le cas de ce qu'on appelle les villes neuves. Ça veut dire une création ex nihilo, où il n'y a pas vraiment de substrat d'occupation importante. C'est vraiment un bourg qui a été créé de toutes pièces, sur le rocher, dans une position très particulière, sur un plateau rocheux, de toutes pièces, vers la fin du XIe siècle.
Justement, pour nos auditeurs, pouvez-vous nous faire un peu d'histoire, puisqu'on est dans l'archéologie, mais puisqu'on est à l'époque médiévale, comment s'organisaient les cités languedociennes, et particulièrement l'usès et cet usage, comment c'était géré? Il y avait la royauté, il y avait les comtes de Toulouse, il y avait l'évêque, comment s'organisait cette cité?
Alors, je vais essayer d'être clair et bref parce que l'histoire médiévale est particulièrement complexe et sophistiquée. Bon, j'ai réalisé une très longue étude documentaire pour essayer de comprendre comment un bourg de l'importance de Massargues, à 8 km au nord d'Uzès, a pu disparaître et aussi quelles ont été les raisons de sa création. Et c'était problématique parce que souvent les bourgs de cette époque-là, c'est souvent, bon, pas que, mais c'est souvent des bourgs monastiques qui se développent à côté d'un monastère. Et c'est souvent des bourgs économiques à côté d'une voie importante. Et à Massargues, il y a le bourg, mais il n'y a pas de monastère à côté. Il n'y a pas vraiment de voie économique. On est sur la route Uzès-Pont-Saint-Esprit, mais ce n'est pas une route très importante au Moyen Âge. Donc, comment un bourg de cette taille, aussi proche d'Uzès, qui était quand même une cité médiévale très importante, siège effectivement d'un évêché, à force de me documenter, j'ai vu que Massargues s'appelait aussi le carton de Raymond. Alors ça m'a beaucoup interrogé. On voit que le carton, ça veut dire le quartier. Mais le quartier, c'est plus ou moins comme on peut l'entendre maintenant. C'est vraiment, ça vient de carteris, cartonum en latin. Et c'est un quart d'un tout qui est composé de quatre parties. Donc en gros, c'est un quartier, mais quatre entités. Par exemple, pour la ville médiévale de Montpellier, on sait que la ville était divisée en six entités, en six quartiers, qu'on appelait sextiers. Et des fois, on a d'autres exemples où c'est des septains quand c'est divisé en sept entités. Donc, Massargues est le quart d'un tout qui a encore trois autres parties. Et dans un texte, j'ai également vu que, un texte du milieu du XIIIe siècle, que Saint-Quentin, qui s'appelle habituellement Château, Castrum, dans un texte, il l'appelait Cartonum, donc carton. Ce qui donnait le nom d'un deuxième quartier. Et Saint-Quentin-la-Poterie n'est pas un simple château. On trouve dans le cartulaire de l'évêque d'Uzès beaucoup plus de mentions au XIIIe siècle sur Saint-Quentin que sur Uzès même. À Saint-Quentin, on a vraiment l'impression qu'il y a toute la noblesse locale. Ça fait penser en fait à une sorte d'agglomération de chevaliers à côté d'Uzès qui réunit voilà toute la noblesse locale. Et donc, il est très probable que les deux autres cartons soit la cité d'Uzès même, puisqu'on sait qu'à la même époque, Uzès justement est divisé en deux parties.
Ainsi se termine cette première partie de l'histoire de Massargues avec Samuel Longepierre. Nous reprendrons demain.